Bonjour à tous et bienvenue dans Paris Central pour ce débrief du match amical entre le PSG et Al Nassr. Premier match de la tournée du Paris Saint-Germain au Japon et en Corée du Sud. Un match assez étrange, mais qui peut s'expliquer facilement. Pour faire ce débrief, justement, je vais le faire en plusieurs parties. Je vais rappeler le contexte de ce match. Je vais rappeler quelle a été la première équipe, quelle a été la seconde équipe mise en place par Luis Enrique. Et enfin, quels ont été les joueurs qui n'ont eu aucun temps de jeu et quels ont été les manques visibles de ce Paris Saint-Germain contre Al Nassr. Avant de commencer ce petit contexte, comme vous le remarquez, ce débrief, je le fais tout seul, c'est un peu nouveau. Donc si je peux avoir un petit pouce, ce serait génial, parce que sinon ça veut dire que vous regardez du contenu que vous n'aimez pas et ça ne nous aide pas beaucoup au référencement ni pour le développement. Donc je vais rester sur la même politique de Nyx, je vais vous encourager à mettre un maximum de pouces et c'est lui qui fixera s'il y aura une récompense ou non en fonction. N'hésitez surtout pas également à vous abonner si vous êtes nouveau dans l'aventure Paris Central afin qu'on soit de plus en plus nombreux à suivre l'actualité de ce club. Et maintenant que ce petit disclaimer est posé, je vous propose qu'on parle du contexte de ce match entre le Paris Saint-Germain et Al Nassr. Contexte qu'il faut rappeler car en effet le Paris Saint-Germain est à son premier match de la tournée japonaise et coréenne. Bien qu'il y ait eu un match amical contre Le Havre la semaine dernière il y a peu, il faut rappeler que Al Nassr à l'inverse n'est pas du tout au début. Al Nassr, eux, en sont à leur cinquième match de préparation. Après deux victoires contre des équipes de division inférieure portugaise et deux défaites contre le Celta Vigo et Benfica, finalement, Al Nassr jouait contre le Paris Saint-Germain leur cinquième match de préparation et on se rend compte que cette équipe était plus aboutie et plus prête que le Paris Saint-Germain lors de ce match. Donc, c'est important à rappeler. Et deuxième disclaimer, c'est important au niveau du contexte de rappeler qu'une tournée de pré-saison et les matchs qui en découlent ne définissent pas la saison qui vont en suivre. En effet, ce n'est pas parce qu'on est mauvais pendant les matchs de préparation qu'on va faire une mauvaise saison. Et ce n'est pas parce qu'on est très très performant pendant les matchs de préparation qu'on va faire une grande saison derrière. Je vous invite à voir les matchs de préparation des saisons précédentes du Paris Saint-Germain si vous avez la mémoire courte, notamment les prestations de Vitinha très très vite comparé à Pedri, notamment Lorenzo Caligari qui était censé être le nouveau crack au poste de numéro 6 après les matchs de préparation, tout comme Ouganda et Baebek et d'autres qui finalement n'ont jamais prouvé au Paris Saint-Germain ni même dans les grands clubs comme on l'espérait après des matchs incroyable en pré-saison. C'est pour ça qu'il ne faut pas être trop dur ni trop s'enflammer avec les joueurs et garder une certaine mesure quand on parle de matchs de préparation. Et maintenant que j'ai fixé ce petit disclaimer, j'ai parlé de la première équipe de Luis Enrique. La première équipe de Luis Enrique, elle a joué dans sa 4-3-3 très classique, très espagnol des années 2010, on ne va pas se mentir. Et cette compo, elle s'est vue avec certains joueurs qui étaient des garanties au poste de titulaire et d'autres non. On a pu voir justement de ce 4-3-3 que Donnarumma était le gardien numéro 1. Malgré ce qu'il a vécu la semaine dernière, il était présent aujourd'hui et ça rassure de voir qu'il a été au niveau. Il aurait pu être impacté par ce qui lui arrivait personnellement et ce n'a pas été le cas, mais on y reviendra à un autre moment. Achraf Hakimi a débuté titulaire en tant qu'arrière droit et Lucas Hernandez a été son pendant à gauche en l'absence de Nuno Mendes. Je m'attendais à voir Bernat ou Kurzawa encore une fois titulaire, mais finalement, Luis Enrique a fait le choix de titulariser Lucas Hernandez d'entrée, ce qui a permis une défense centrale composée de Skriniar et Danilo, qui a d'ailleurs fait une bonne performance. Je ne pense pas qu'on aura trop de débats là-dessus. Le milieu à 3, il n'était pas fixe. Le milieu à 3, il était composé de Sheriff Endo, de Vitinha, de Warren Zaïre-Emery, et on remarquera qu'aucun des trois n'était fixé dans le milieu parce que selon les phases de jeu, ce n'était pas le même joueur qui allait redescendre jouer le poste de numéro 6, ce n'était pas forcément toujours le même joueur qui allait jouer le poste de numéro 8 un peu plus offensif. Et finalement, la permutation des trois milieux a fait quand même pas mal de bien au Paris Saint-Germain, il faut l'avouer. Devant, ça a été un autre scénario. Devant, on a eu une triplette avec Carlos Soler au poste d'ailier droit, qui est un meneur de jeu excentré. On a eu Asensio dans le rôle de faux neuf et Noah Lemina au poste d'ailier gauche. Et finalement, sur ces trois-là, seul Lemina a apporté une réelle satisfaction. Cependant, attention à bien vous remémorer ce que je vous ai dit précédemment sur les matchs de pré-saison. Mais la deuxième équipe qui est rentrée à partir de entre la 59e et la 62e, on va dire, il y a eu 9 changements et l'équipe a drastiquement changé de visage. Au-delà des changements de nom et des changements quantitatifs de joueurs, on se rend compte que l'équipe n'est plus en 4-3-3, mais elle passe en 3-4-3 losange. Et dans cette défense à 3, on remarquera que Kurzawa était défenseur central axe gauche, que Marquinhos était le central, que notre ami Ugarte était défenseur central axe droit et non pas dans le milieu à 4. Dans le milieu à 4, on a pu y retrouver Ethan Mbappé dans le rôle de 6 avec Verratti un cran au-dessus, soutenu par Fabian Ruiz un peu plus excentré à droite et Bernat à gauche. Et dans la ligne des 3 de devant, Noah Lemina est resté devant jusqu'au bout du match et on a vu les entrées de Housni et de Garbi. Alors, on peut constater que l'équipe qui est rentrée en cours de jeu était différente de celle qui était titulaire. En effet, ce n'étaient pas les mêmes intentions dans le jeu. Il y avait plus de dynamisme, selon moi, dans la deuxième partie. Et j'ai été très étonné de l'entrée de Leivin Kurzawa, même si, encore une fois, je le rappelle, on est dans une tournée de pré-saison. Quels sont les joueurs qui n'ont absolument pas joué pendant cette rencontre et qui ont eu 0 minute de temps de jeu? Il y en a eu quelques-uns, pas beaucoup, et on peut se poser des questions sur leur situation. On sait que Neymar n'a pas joué, mais on sait qu'il revient de blessure et donc il est tout à fait normal de ne pas prendre de risques avec lui. Je ne suis donc pas étonné de ne pas l'avoir vu jouer. Je n'ai pas vu jouer également Renato Sanchez, et lui j'étais un petit peu plus étonné étant donné qu'il avait joué contre le Havre au poste d'arrière droit. Mais finalement, je me dis que Luis Enrique n'a peut-être pas trop besoin de Renato, ne compte pas trop sur lui pour le moment en tout cas. Pas de rotation de gardien dans ce match-là. Donnarumma a joué tout le match et Navas ainsi que Léo Mouquet sont restés sur le banc et n'ont pas fait d'entrée sur ce match-là. Lee Kang-in plutôt n'est pas rentré dans ce match suite au coup reçu contre le Havre. Je pense qu'on ne veut pas prendre de risque avec ce joueur pour qu'il puisse participer à la tournée tout simplement. Peut-être qu'il a encore quelques gènes et quelques douleurs et Luis Enrique n'a pas voulu prendre de risque avec lui, chose que je peux comprendre. Je n'ai pas vu également l'entrée de Serif Naga que j'ai apprécié contre le Havre et que j'aurais bien aimé revoir jouer en tout cas ce soir, enfin cet après-midi plutôt. Dommage qu'il n'ait pas joué, mais bon, je pense qu'il aura peut-être plus d'opportunités de temps de jeu. En tout cas, il y a du monde en concurrence à son poste, entre Nuno Mendes, entre Lucas Hernandez, entre Bernat, entre Kurzawa. Les solutions existent pour Luis Enrique pour le moment, même si je pense qu'il y aura des changements avec le mercato à venir en tout cas. Quels sont les joueurs qui m'ont plu et les joueurs qui m'ont moins plu? On va pas faire des tops et des flops parce que, comme j'ai dit, on reste sur un match de préparation, sur une équipe pas très aboutie, à l'inverse de l'équipe que l'on a affrontée aujourd'hui. Donc, je trouverais un peu dur de mettre des tops et des flops et je trouverais ça un peu injuste. Donc, je vais dire plutôt les joueurs que j'ai bien appréciés et les joueurs dont j'en attends plus. J'ai apprécié les jeunes, notamment Noah Lemina, notamment Warren Zaïre-Emery, notamment Cher N'Dour, qui avait une carte à jouer dans cette pré-saison, et d'après les déclarations de Luis Enrique, qui disait que les jeunes devaient oser parce qu'ils pourraient leur donner du temps de jeu. Ben, pour le moment, même si on est sur une pré-saison, ben, ils jouent, on verra à terme ce que ça donnera, mais ils n'ont pas déçu, en tout cas, que ce soit N'Dour, que ce soit que ce soit Warren Zaïre-Emery et Noah Lemina. En tout cas, les trois ont apporté du remuant dans cette équipe, ont apporté de l'impact aussi bien avec le ballon que sans ballon. Donc, des joueurs intéressants qu'on pourrait en attendre plus pour la suite, à voir comment ils se développent au fur et à mesure de la tournée de pré-saison et au sein de la saison, tout simplement, parce que elle commence, mine de rien, avec cette tournée de pré-saison, cette saison du Paris Saint-Germain. Qui est-ce que j'ai apprécié d'autre? J'ai apprécié Lucas Hernandez et Skriniar, qui montrent qu'ils sont une paire très très fiable défensivement parlant, et je pense que Kimpembe et Marquinhos sont de réels soucis de concurrence à serre à leur poste, et c'est pas plus mal pour le Paris Saint-Germain, parce qu'au final ce seront les meilleurs qui joueront, et s'ils doivent se battre pour être les meilleurs, et que chacun gagne sa place pour jouer, c'est-à-dire que ce sera le meilleur titulaire, et ce sera le mieux pour le Paris Saint-Germain. Cependant, qu'est-ce que je n'ai pas trop aimé dans le Paris Saint-Germain? Dans cette équipe, en tout cas la première. Je trouve que Asensio et Carlos Soler ont eu un peu de mal encore dans cette équipe. Marco Asensio n'a pas tout à fait joué à son poste préférentiel. Il est plus ailier droit, même s'il sait dépanner faux neuf et que là, il dépanne faux neuf pour le coup. Et Carlos Soler, pareil, pas forcément utilisé à son poste préférentiel. On sait qu'il est plus meneur de jeu dans un 4-3-3. Et là, il était meneur de jeu excentré sur l'aile droite, un poste qui n'est pas son poste préférentiel. Et ça s'est vu en tout cas contre Al Nassr. Donc des joueurs dont j'en attends plus forcément et je ne serai pas trop trop dur avec eux comme j'ai dit parce que on parle de match de pré-saison. Au niveau des joueurs qui sont rentrés, est-ce que certains m'ont fait plaisir? Étonnamment, comme je le disais, j'ai bien aimé l'entrée de Leivin Kurzawa qui dans ce rôle de défenseur dans la défense à 3 a su monter quand il fallait monter, a su rester aligné et défendre quand il fallait le faire. Je pense tout simplement qu'il a un an de la fin de son contrat et que soit il essaie de gagner une place dans cet effectif du Paris Saint-Germain, soit de se vendre au mieux s'il doit quitter le Paris Saint-Germain et pourquoi pas profiter de la tournée de pré-saison pour justement mettre un peu de lumière sur sa propre personne. Donc écoute, si Leivin Kurzawa veut quitter le club ou rester, dans les deux cas, il va falloir qu'il montre les performances qu'il a montrées aujourd'hui. On peut toujours en attendre mieux, mais on a été attendu en tout cas, pardon, excusez-moi. On a été habitué à bien pire, en tout cas, avec Leivin Kurzawa au Paris Saint-Germain. Autre entrée que j'ai appréciée. J'ai apprécié quand même l'entrée de Ilias Husni, même si j'estime qu'il aurait pu mieux faire. Mais il a essayé des choses Mais à ce moment-là, c'est vrai que on est dans un stade où on n'est pas une équipe qui demande d'essayer des choses. On veut que nos joueurs s'imposent au Paris Saint-Germain. Et Elie Assoumani, pour moi, c'est un joueur qui est encore jeune, qui a besoin de temps de jeu. Et il ne l'aura pas forcément au Paris Saint-Germain. Donc je l'invite à gagner du temps de jeu en prêt. Je ne pense pas qu'il doit partir du Paris Saint-Germain définitivement, mais je pense qu'un prêt dans un club qui sait développer les jeunes, ça pourrait lui faire beaucoup de bien. À voir s'il reçoit des offres. S'il ne reçoit pas d'offres, je pense qu'il va rester dans le groupe élite comme la saison dernière. Mais je pense que son développement peut être intéressant, mais que c'est un joueur qui n'est pas encore fini, bien entendu, et qu'il ne faudra pas être trop trop dur avec lui. Quels sont les manques visibles du Paris Saint-Germain que j'ai repérés en regardant les demi-temps et les deux équipes? Les deux équipes ont changé, mais selon moi, il y a quelque chose qui s'est remarqué. Dans les deux cas, ça manquait de neuf. Il y a besoin d'un neuf qui soit vraiment dans les bonnes zones quand il y a des centres, qui soit toujours placé entre les défenseurs centraux, qui les gêne un maximum. Asensio, ce n'est pas un vrai neuf, c'est un faux neuf, on l'a bien vu. Il ne pèse pas assez devant, mais bien qu'il essaie de décrocher et d'apporter des solutions pour faire jouer les autres. Finalement, c'est le même problème que l'an dernier. On n'a pas recruté de neuf et pour le moment, ce manque est encore visible. Le poste d'ailier droit est pour l'instant pas forcément pourvu. On l'a vu, Carlos Soler n'a pas apporté satisfaction à ce poste. Ismaël Garbi a tenté des choses intéressantes, mais pour moi, il est trop tendre pour être titulaire au Paris Saint-Germain à ce poste. Et je pense qu'il y aura besoin de concurrence à ce poste. Peut-être que Kanguini aurait pu être une solution, mais comme je l'ai évoqué précédemment, peut-être qu'en raison du coup qu'il a pris, il était compliqué pour lui de jouer ce match. Je préfère qu'il soit reposer plutôt qu'on le fasse jouer à tout prix et qu'il se blesse et qu'on le rate définitivement. Donc autant le laisser se reposer pour qu'il soit prêt au moment de jouer. Mais voilà, je pense que ce poste, en tout cas, il a besoin d'être pourvu parce que si Mbappé ne quitte pas le club, peut-être qu'il sera amené à jouer au poste d'ailier gauche. S'il quitte le club, peut-être que Neymar sera meneur de jeu excentré à gauche. Donc tout simplement, je pense que c'est plus le poste d'ailier droit et le poste de neuf qui ont été des vrais manques dans ce match, en tout cas. Je ne sais pas ce que vous en avez pensé, vous, de tout ça, pour les personnes qui ont regardé ce match et qui suivent Paris Central. N'hésitez pas à donner votre avis. L'espace commentaire est à vous. Il est fait pour ça. N'hésitez pas à me dire s'il y a des manques encore au Paris Saint-Germain, lesquels sont-ils? S'il y a des joueurs qui vous ont plu, même s'il faut rester mesuré quand même, et des joueurs qui ne vous ont pas plu, même si j'ai évoqué qu'on restait dans la pré-saison. N'hésitez pas encore une fois à mettre un pouce à la fin de cette vidéo pour nous aider un maximum à référencer ce débrief et n'hésitez pas à vous abonner si vous êtes nouveau. Merci à tous d'avoir participé à ce podcast et surtout n'oubliez pas, ici c'est Paris.